Vous êtes sur le point de suivre Lève-toi et brille, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, Sise à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'Amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny. Diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229-61-44-44. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h. Nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu. La meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.
Saluons dans le nom précieux de Jésus et nous rendons grâce à Dieu une fois encore et toutes les fois pour nos vies. Parce que c'est au moment où nous nous en rendons le moins compte qui travaille le plus dans notre vie. Et toutes les fois, nous devons nous rappeler d'où nous venons avec lui et où nous allons. En nous demandant régulièrement si nous sommes bien sur le bon chemin. Et cela doit être l'objet de nos méditations. Parce que le Seigneur nous dit de méditer la parole jour et nuit. De la parler et de mettre en pratique tout ce qui est écrit afin de réussir dans toutes nos entreprises. C'est-à-dire que quoi que nous fassions au quotidien, nous devons constamment vivre avec et dans la parole. Et les résultats de nos actions doivent nous prouver que nous sommes sur le bon chemin, doivent nous donner ce que nous sommes en train de viser. Ce que nous visons, non pas seulement pour nous, mais en termes de notre vie prise comme Dieu la voit. Nous ne devons jamais arrêter de nous demander si nous sommes sur le bon chemin. Dieu nous dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, au jour du malheur, médite tes voies. Donc même si le Seigneur est avec nous et que sa paix est avec nous, il y a quand même beaucoup de choses qui vont encore mal dans nos vies. Donc nous ne devons pas arrêter de méditer nos voies. Chaque fois que quelque chose ne va pas bien dans notre vie, nous devons méditer nos voies, analyser ce que nous faisons à la lumière de la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce qui fait que tout ne va pas encore bien. Parce que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons en bonne santé et que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Quand vous mettez ces trois choses ensemble, ça couvre tous les domaines de notre vie. La santé, la prospérité à tous les égards, c'est-à-dire que dans tous les domaines, tous vos besoins sont pourvus, vous avez un supplément pour faire de bonnes œuvres. Et au niveau spirituel, vous croissez aussi. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Ce n'est pas un rêve utopique de Dieu pour nous. C'est la volonté de Dieu pour nous. Et quand Dieu nous donne une vision, il nous donne les provisions qui vont avec. Si Dieu nous dit que c'est ce qu'il veut pour nous, parce qu'il est un Dieu fidèle, cela veut dire qu'il a pourvu à tout ce qu'il faut pour ça. Et donc nous devons nous saisir de ce qu'il a pourvu pour cela, pour pouvoir manifester cela. Et chaque fois que nous échouons, chaque fois que nos fruits ne sont pas à la hauteur de ce qu'il a promis, cela veut dire qu'il y a quelque chose que nous faisons encore mal, quelque chose que nous ne comprenons pas. Et c'est pour ça que nous ne devons jamais nous fatiguer de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. C'est pour ça que nous enseignons beaucoup actuellement tout ce qui a rapport à la foi. Pas la foi au sens théorique du terme, mais la foi concrètement. Parce qu'il est impossible à qui que ce soit d'être agréable à Dieu sans la foi. Alors, si Dieu dit qu'il est impossible de lui être agréable sans la foi, quelle est cette foi qu'il attend de nous? Est-ce que c'est un comportement théorique, spirituel qui est là parce que ça doit être là? Non, ce n'est pas cela. La foi est pour notre esprit ce que nos sens sont pour le corps. L'homme est un corps et un esprit. Le plus important, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. C'est comme quand vous prenez une voiture. L'essentiel, ce n'est pas la carrosserie, ce n'est pas les fauteuils, ce n'est pas le volant, ce n'est pas les roues. Ça, c'est la machine extérieure. Mais le plus important, c'est le moteur. Il vaut mieux avoir une voiture sale, cabossée, avec un bon moteur, qu'une très très belle voiture avec un moteur qui ne marche pas. Parce que là où la voiture peut t'amener dépend de son moteur, ne dépend pas de la carrosserie. Dans notre vie, c'est pareil. Ce que votre vie donnera ne dépend pas de votre corps, ne dépend pas de vos sentiments, ça dépend du moteur de votre vie qui est votre esprit. Or, tous autant que nous sommes, nous consacrons tout notre temps, tous nos moyens, toute notre énergie à soigner notre corps. Personne n'oublie de manger. Personne ne traîne pour se soigner. Personne n'oublie de se vêtir. Personne n'oublie de chercher un toit. Personne n'oublie de chercher une femme. Nous cherchons toujours tout ce qu'il faut pour que le corps soit heureux. Et toute notre vie est consacrée à soigner le corps. Comme un propriétaire qui tous les jours, s'il fait la peinture, répare, dépoussière sa carrosserie, sa voiture, ses fauteuils, alors que la voiture ne démarre même pas, elle ne bouge pas. Vous voyez ainsi des gens dont la vie est une catastrophe. Ils sont au chômage, ils ne sont pas mariés, ils n'ont rien de normal, mais ils sont bien habillés avec des chaussures terribles. Et puis bon, le corps est là, il brille, ça ne va nulle part. Parce qu'ils se trompent de combat. Quand vous prenez le corps, un corps ne pourrait rien faire sans ces cinq sens. Imaginez quelqu'un qui est à la fois aveugle, qui ne peut pas entendre, qui ne peut pas goûter, qui ne peut pas sentir et qui ne peut pas toucher. Je ne sais même pas si ce genre de personne existe. C'est pas comme quand quelqu'un a la malchance d'être aveugle, souvent il a l'ouïe très développée, il a le droit très développé, il a le toucher très développé.
mede ti bon jon ton de do bro nu jonu e do bro si dagbe o eno bio de voji boya eno to wa do bro nu kuto na no mon si nu kuto do bro ajo to na no se.
C'est pour ça que, par exemple, les aveugles lisent, mais avec le toucher, avec l'écriture braille. En se déplaçant, ils touchent les choses, ils sentent les choses, ils font très attention au son. Donc, le corps ne peut pas se déplacer et agir si les cinq sens ne fonctionnent pas. S'il n'arrive à rien voir, s'il ne peut rien sentir, s'il ne peut rien toucher, s'il ne peut rien palper. C'est ça qui lui permet de jauger l'environnement et de savoir comment avancer. Si tu n'as aucun des sens, c'est que tu peux être en train de marcher, rentrer dans un puits, ou bien rentrer dans le feu, ou bien rentrer dans la mer, mourir. Parce que rien ne va te prévenir qu'il y a le danger. Qu'est-ce qui te prévient du danger? Qu'est-ce qui fait que tu évites quelque chose sous tes yeux? Qu'est-ce qui fait que tu évites les accidents? C'est tes cinq sens qui te donnent de l'information sur l'environnement dans lequel tu es. Et quand tes sens fonctionnent et te donnent des informations, il faut maintenant que tes membres, ta main et ton pied fonctionnent pour que tu te déplaces dans cet environnement-là, pour que tu puisses saisir ce que tu vois dans cet
environnement-là.
Le problème, c'est que si c'est notre esprit qui est l'essentiel, notre esprit a lui aussi besoin d'être guidé par ces informations-là. Ton corps évolue dans le monde matériel où les choses sont visibles et les sens sont là pour lui permettre de voir et d'agir dans le visible. Mais ton esprit, lui, qui est le plus important? Qui va vivre quand ton corps sera mort? Lui, il évolue dans le règne invisible. Mais dans ce règne invisible-là, il y a encore plus de choses à savoir. Il y a plus de choses à comprendre. Et ce qu'on comprend de ces choses-là va déterminer comment ton esprit va se comporter. Va déterminer ce que ton esprit peut faire ou ne pas faire. Va déterminer ce que tu peux prendre ou ne pas prendre. Voilà que les sens de ton corps sont pour ton corps. Les sens de ton corps ne servent à rien à ton esprit. Tu ne peux pas sentir que quelqu'un veut te tuer par ton nez, par ton oreille ou par quelque chose. Donc, qu'est-ce qui te permet ou qu'est-ce qui est l'équivalent des sens pour ton esprit? Qu'est-ce qui te permet de voir ce qui se passe dans l'oreille spirituelle? De connaître comment les choses se passent dans l'oreille spirituelle. D'anticiper les choses dans l'oreille spirituelle. De te tenir au bon endroit. Et d'agir de la bonne manière. Dans le domaine spirituel. Où tout est invisible. Où tu ne vois rien. Qu'est-ce qui te le permet? De ne pas être un aveugle. Sourd, muet. Sans goûter, sans toucher. C'est la foi. La foi est pour ton esprit. Ce que les cinq sens sont pour ton corps. Si tu n'as pas les cinq sens, c'est que tu n'as pas de main. Tu ne peux rien faire, ton corps est foutu. C'est pareil pour ton esprit. Si tu n'as pas la foi, ton esprit ne peut rien faire. La foi, c'est quoi? Elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est-à-dire que, comme tu ne peux rien voir, comme tu ne peux rien percevoir avec tes sens du corps, la foi doit remplacer tous ces sens-là et donner les informations, donner ce qu'il faut pour se comporter à ton esprit. Alors comment la foi le fait? La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Comme tu ne vois rien, comme c'est du règne invisible, Dieu dit ne t'inquiète pas, je vais te décrire ce qui se passe dedans. C'est comme si tu es aveugle, tu es sourd, tu es pas sourd, mais tu es à côté de toi quelqu'un. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il dit attention, devant toi il y a de l'eau, fais un pas en arrière, à droite il y a un puits, fais un pas à gauche. Attention, quelqu'un veut te couper la tête. Baisse la tête. Le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, te décrit ce que toi-même tu ne peux pas voir parce que c'est invisible. La parole de Dieu est une révélation de ce qui se passe dans l'invisible. Tu n'as jamais vu Dieu. Tu n'as jamais vu le diable. Tu n'as jamais vu les démons. Tu n'as jamais vu les anges. Tu ne sais pas les lois qui régissent leur comportement. Qu'est-ce qui crée quel effet dans le règne invisible? Tu ne l'as jamais vu. Mais par sa parole, le Saint-Esprit est donc Dieu. Dis à ton oreille qui doit le transmettre à ton corps, à ton cœur et à ton esprit. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc la foi, c'est que tous tes sens sont remplacés par ce que tu entends de la parole. C'est cette parole qui devient tes yeux, tes oreilles et tous tes sens dans le règne spirituel. Et de la même manière que selon ce que tu vois, tu détermines ce que tu peux faire. C'est selon ce qui te vient de la foi que tu peux déterminer ce que tu peux faire spirituellement. Si tu es aveugle et je passe 10 millions devant tes yeux, tu ne vas pas faire comme ça pour prendre. Parce que tu ne vois pas. Et même si tu voulais le prendre, si par exemple tu es paralysé en plus d'être aveugle, là je vais passer, là tu ne pourras rien faire. C'est pareil dans le règne spirituel. Même si Dieu met une grosse bénédiction devant toi, tu ne peux pas la voir. Tu n'as pas les mains spirituelles pour la prendre. Tu seras tous les jours là en train de pleurer. Seigneur, viens me sauver. La bénédiction est devant tes yeux. Tu es déjà béni. De toute ta bénédiction dans les lieux célestes, Dieu est avec toi tous les jours. Il a tout accompli. Mais tu pleures. Comme quelqu'un pour lequel on met 10 millions devant ses yeux qui pleure toujours. Parce qu'il ne voit pas et parce que sa main ne peut pas bouger. Mais s'il voyait, si sa main peut prendre, le problème est fini. C'est pareil dans le règne spirituel. C'est par la foi que tu vois ce qui est déjà fait. C'est par la foi que tu vois ce qui existe. C'est par la foi que tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut dire. Et tu sais que ça va créer tel effet. Et donc tu peux agir en conséquence. Donc celui qui n'a pas la foi, ça ne lui fait rien de venir à l'église. Qu'est-ce qu'il fout dans le règne spirituel? Ça veut dire qu'il ne perçoit rien. Il ne discerne rien. Il ne peut rien faire. Je suis ici. Je ne vois pas les anges. Mais je sais qu'ils existent. Comment je le sais? Parce que la parole de Dieu me le dit. Je sais qu'ils existent. J'ai la foi qu'ils existent. J'ai la ferme assurance qu'ils existent. Parce que la parole de Dieu me dit qu'ils existent. Et comment je sais qu'ils existent? Parce que Dieu l'a dit. Et que Dieu ne ment jamais. Et comme je le sais, je dois démontrer que je le sais. La parole de Dieu me dit qu'ils existent et qu'ils courent accomplir la parole de Dieu. Qu'ils veillent sur sa parole pour l'accomplir. Qu'ils veillent sur sa parole pour l'accomplir. Et qu'ils sont là au service de ceux qui aiment Dieu.
Donc,
je ne les vois pas avec mes yeux, mais les yeux de ma foi les voient. Et je sais donc que quand ils entendent la parole de Dieu, ils vont l'exécuter. Mais je sais aussi par la parole de Dieu que de la même manière qu'il y a les anges de Dieu, il y a les anges du diable qui sont les démons. Eux aussi sont là et ils courent pour exécuter la parole du diable. Donc quand je me sens un peu fatigué, je sais par la foi que mes sens humains me disent: parle, c'est pas grave. Je dis, je suis fatigué, où est le problème? Je dis, je suis malade, où est le problème? Je dis, ah, je risque de mourir, où est le problème? Ça ne change rien pour mon corps, apparemment. Mais ma foi me dit, attention, attention. La parole de Dieu a dit que les anges sont là, les démons sont là. Quand il dit, je me porte bien, je suis en bonne santé, j'ai la vie de Dieu. Les anges que tu ne vois pas, mais qui sont bien là, qui obéissent à voir l'éternel, ils se saisissent de ça, ils courent, ils accomplissent ça. Donc quand tu prophétises, que tu déclares la parole de Dieu, les anges ne font pas la différence entre la parole de Dieu dite par Dieu ou la parole de Dieu récitée par quelqu'un. Quand tu dis le bonheur et la grâce m'accompagne tous les jours, les anges disent, ah, ça c'est ce que Dieu a dit. Comment appliquer ça à ce gars-là? Eux ne veulent pas réfléchir. C'est pour ça que tu dois parler la parole de Dieu. Il dit à José, qu'elle ne s'éloigne pas à ta bouche. Mais quand tu dis ne parle la parole, tu dis, bon, pourquoi si je vais me fatiguer à parler? Je peux penser seulement, non? Mais celui qui a dit de parler, lui sait ce que des choses que tu ne sais pas. Il connaît des réalités que tu ne connais pas. Donc comme tu ne les connais pas, méfie-toi à celui qui voit tout dans l'invisible. Avoir la foi, c'est être assez intelligent pour suivre les instructions de celui qui voit ce que tu ne vois pas. Tu ne vois rien dans le règne spirituel. Celui qui connaît tout dedans te dit de passer à gauche. Et toi, tu passes à droite. Et tu dis que tu es intelligent. C'est de l'intelligence, ça là. Il dit ne parle pas de ça. C'est de ça là que toi tu parles. Et tu as surpris des problèmes. Et comme tu ne vois pas les liens de cause à effet, qui est-ce que tu dis la réaction? Tu penses qu'il n'y a pas de lien. Mais il y a un lien. Comment tu connais ce lien? Parce que te dit la parole de Dieu. Et que tu dois prendre au sérieux. C'est pour ça que c'est dangereux quand vous ne prenez pas la parole de Dieu au sérieux. Ce n'est pas des écrits. Tu arrives quelque part. La parole de Dieu te décrit le règne spirituel. Quand tu dis je suis malade, les démons se saisissent de cette parole-là. Ils t'en font selon ta parole. La parole de Dieu te le révélait. Si tu le crois, tu ne prononceras pas de mauvaises paroles. Et si tu ne le crois pas, tu diras ce que tu veux. Eux le prendront, ils vont te rendre malade. C'est la faute de qui? Tu as fait ce qu'il fallait pour être malade. Parce que tu n'as pas tenu compte de ce que la parole de Dieu te disait. Tu n'as pas ouvert les yeux spirituels. Et les yeux spirituels s'ouvrent pas à la foi. Où tu veux quelque chose, Dieu dit de l'appeler. Physiquement, c'est bizarre. Comment on peut appeler quelque chose par la bouche? Mais dans le règne spirituel, c'est possible. Parce que quand tu appelles la chose, des anges vont aller la chercher. Au nom de Dieu, te l'a porté. Comme tu ne vois pas les anges, tu peux ne pas croire. Mais si tu as une ferme assurance dans la parole de Dieu, même si tu ne les as pas vus, tu ne crois pas à la foi qu'ils sont là. Et tu agis en conséquence. Ce que nous disons là n'est pas compliqué. Quand tu mets la graine en terre, tu ne sais pas ce qui se passe sous la terre jusqu'à ce que le maïs sorte. Mais pourquoi tu le fais? Parce que tu sais que c'est comme ça que ça marche. Donc quand tu veux du maïs, tu n'as pas besoin d'aller faire de l'agriculture ou de l'ingénierie agricole. Tu mets le maïs en terre, tu l'arroses. Tu peux pas aller mettre un maïs sur du caillou et dire que bon, toi tu veux faire une expérience, c'est sur du caillou que ça te plaît de planter ton maïs. Et ça va donner quelque chose. Quand tu ne connais rien à l'agriculture, et les agriculteurs te disent c'est à telle saison qu'on sème telle chose. C'est comme ça qu'on plante telle chose. Par exemple, tu veux planter du niam et tu cherches des graines de niam. Et le président te dit non, il faut couper juste et planter. Tu dis non, que toi tu cherches des graines d'yam. Tu vas chercher longtemps. Mais quand tu ne connais pas quelque chose, et ceux qui connaissent se disent c'est comme ça qu'on fait. Fais comme ils vont dire. Pourquoi tu le fais comme toi tu veux? Tu ne connais rien à la bénédiction. Tu ne connais rien à la santé. Tu ne connais rien à la joie. Le Dieu qui a fabriqué tout ça te dit quoi faire. Maintenant explique-moi pourquoi tu ne peux pas bêtement faire ce que tu veux faire. Et tous les jours vous faites le contraire de ce qu'il a dit. C'est quoi le problème? Et le pire, c'est qu'on fait le contraire et vous espérez un résultat. Mais en vertu de quoi? Mais c'est le bon sens. Quand on te dit que ok, la lumière ici, il faut appuyer l'interrupteur. Tu n'as pas besoin de connaître l'électricité. Tu n'as pas besoin de connaître la loi de la résistance, de voltage. Ce n'est pas ton problème. La foi, c'est quand tu as dit que quand on veut la lumière, on appuie le bouton. Pourquoi tu ne peux pas appuyer le bouton? Pourquoi tu ne peux pas appuyer le bouton? Qui toi tu es? Tu veux réinventer l'électricité? Commence à chanter dans une salle où il n'y a pas d'électricité. Commence à chanter, à danser, à louer Dieu. Tu vas voir la lumière. Ou bien? Prie toute la nuit, fais veille de prière. La lumière va venir. On les appelle sur le
interrupteur.
S'il y a un interrupteur là, et il faut l'appuyer pour voir la lumière, c'est une loi.
C'est vrai.
Si tu ne l'appuies pas, tu n'auras pas de lumière. Même si Dieu veut faire un miracle, la capacité de Dieu commence là où s'arrête la vôtre. Dieu a agi au-delà de ce que l'on peut faire. Quand tu as soif, Dieu t'a donné de l'eau. Si tu laisses l'eau et tu pries pour être désaltéré, Dieu ne va pas te répondre. Il n'a pas rien, il n'a pas que ça à faire.
Le
Un enfant a faim, il est devant toi. Il te demande à manger. Tu ne dois pas manger, tu pries Dieu de lui donner à manger. C'est la foi, ça. Tu pries pour que Dieu lui donne à manger. C'est ça le problème. Vous ne grandissez pas dans la foi. Vous ne portez pas des fruits dans la foi. Parce que vous faites comme si la parole de Dieu était un roman, comme si c'était la philosophie sur Dieu. Tu dois faire des choses pour être heureux. Dieu te dit comment les faire. Tu dois éviter des choses pour ne pas avoir des problèmes. La parole de Dieu te dit comment les éviter. Mais c'est tout. Est-ce que c'est compliqué? Et donc, comment quelqu'un qui ne croit pas ça peut s'en sortir? Le problème que nous avons, c'est que, comme il n'y a plus beaucoup d'esclaves aujourd'hui, il y a un mot important que nous ne comprenons pas. Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est de croire du cœur. La foi du cœur, ce n'est pas la foi de la tête. Hein. On peut croire de la tête sans croire du cœur. Croire du cœur, c'est que tu es tellement convaincu que même si ta tête ne fonctionne pas, c'est dans tes habitudes. Ça te paraît évident. Votre problème souvent, c'est que vous ne croyez pas du cœur. On a dit, vous avez entendu. Mais vous ne croyez pas du cœur. Ce qui va vous sauver, c'est de croire du cœur. Si vous ne croyez pas ce que Dieu dit du cœur, vous n'êtes même pas un chrétien. Parce qu'on devient chrétien en croyant du cœur. Si tu vas à l'église pendant 10 ans, tu ne crois pas ce que la parole de Dieu dit, c'est que tu perds ton temps, il faut retourner dans le monde peut-être. Je ne sais pas. Dieu dit que c'est comme ça les choses marchent. Toi, tu penses que non, ça c'est Dieu qui a dit, il doit y avoir une autre manière de fonctionner. Toi, tu as quel âge? Dieu existait avant qu'on ne commence à compter le temps. Et tu vas mourir bientôt, lui vivra encore pour l'éternité. Alors, qui toi tu es? Et quand Dieu dit que c'est comme ça qu'on fait, ça marche. Toi tu dis qu'on peut ne pas faire comme ça, ça va marcher. Ça, ce n'est pas le manque de foi, excusez-moi, c'est la bêtise. La foi là, c'est scientifique. Dieu dit 1 plus 1 font 2. Si tu veux 2, ajoute 1 plus 1. C'est tout, hein? C'est pour ça que Dieu dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme un enfant. Il faut prendre le royaume de Dieu et la parole de Dieu comme un enfant le pense. C'est-à-dire, maman a dit comme ça, papa a dit comme ça, ma maîtresse a dit comme ça. Point final. Vous entendez? Mais vous dites, bon, j'ai entendu. Et puis, vous ne faites rien avec. Si on te dit que quand tu manges du piment, tu as des hémorroïdes. Tu vas manger du piment tous les jours. Et tous les jours, tu as des hémorroïdes. Et quand tu as des hémorroïdes, tu pleures. Et tu pries. Et tu manges du piment tous les jours. C'est ça, ne pas avoir de foi dans la science.
Mais
le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ne pas avoir de foi, c'est qu'on dit si tu manges ça, tu vas être malade. Tous les jours, tu manges ça, tous les jours, tu es malade. Mais tu pries pour ne pas être malade en mangeant ça, au lieu d'arrêter de manger ça. C'est ça, ne pas avoir de foi. C'est pour ça que Dieu dit l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. C'est-à-dire vaut mieux que la prière. Ça ne sert même à rien de prier si tu n'obéis pas à Dieu. Écoutez, c'est comme si on me dit de rentrer dans ma chambre. J'ai la clé. Je n'utilise pas la clé. Je prie pour que la porte s'ouvre. Je veux démarrer ma voiture. Je n'utilise pas la clé. Je prie pour que la voiture démarre. L'essence est finie. Je vois bien sûr ma chose qu'il n'y a pas d'essence. Au lieu de mettre de l'essence dedans, je prie pour que la voiture fonctionne sans essence. Et je passe ma journée, je dis que je suis un chrétien, donc je n'utilise pas les lois que je connais, je suis en train de prier. Tu as dit quoi? Que je suis fou ou bien que je suis un homme de foi?
On
ne met pas Dieu à l'épreuve. C'est mettre Dieu à l'épreuve que de ne pas appliquer la parole de Dieu et de prier pour que ce que Dieu a promis arrive. C'est impossible. Et je disais que pour être sauvé, il faut croire du cœur. Et il faut confesser de la bouche. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il faut croire du cœur? Et qu'il faut confesser de la bouche. Que Jésus est Seigneur et Sauveur. Le côté sauveur, vous connaissez tous. Et tout le monde veut être sauvé de quelque chose. On y reviendra après. Mais ce soir, je m'intéresse au côté Seigneur. Parce que ce que vous oubliez, c'est que l'ordre des mots dans la Bible est important. Il n'a pas dit Jésus est sauveur et Seigneur. Il est Seigneur et Sauveur. Ça veut dire quoi? Mettre de l'essence dans ta voiture, démarre là. C'est pas la même chose que démarre ta voiture, mets l'essence dedans. Si je te dis de mettre de l'essence dans ta voiture, démarrer, c'est pas le fait que le réservoir est vide, que ça ne démarrera pas sans essence. Donc tu ne peux pas inverser les choses et démarrer la voiture d'abord et après aller chercher les
choses.
Jésus est Seigneur avant d'être Sauveur. Il n'est le Sauveur que de ceux dont il est Seigneur. C'est quoi un Seigneur? Vous avez la chance, il n'y a plus beaucoup d'esclaves. Parce que le mot Seigneur a un rapport avec l'esclavage. Donc comme beaucoup d'entre nous n'avons plus connu l'esclavage, on ne connaît pas la valeur du mot Seigneur. C'est ça, on voit ça comme un titre honorifique. Le Seigneur, c'est ton propriétaire. C'est pour ça que souvent la Bible dit, Jésus, tu es le Seigneur, tu es le Maître. Les deux vont de pair. Ma domestique, par exemple, mes employés, je suis leur maître, je suis leur patron, je les commande. Mais ils ne m'appartiennent pas, je ne suis pas leur seigneur. Ils travaillent pour moi, je les paye, donc je suis leur maître, mais je ne suis pas leur seigneur. Mais quand quelqu'un est seigneur, tu lui appartiens. Je suis Seigneur pour mon chien, pour mon chat, pour mon mouton, pour mon bœuf. C'est-à-dire que si je décide de prendre ce mouton-là, de l'égorger pour manger, je n'ai pas besoin de tenir compte d'une loi, de son humeur, de sa volonté, de ses projets à lui. C'est mon mouton. Quand je dis je veux le manger, c'est que je veux le manger, il n'y a pas de débat. Il m'appartient. Être Seigneur, c'est que tu es le propriétaire, le maître absolu de la personne. Cette personne est donc ton esclave. Tu l'as acheté et tu disposes entièrement de sa vie. S'il a une femme, sa femme t'appartient. S'il a des enfants, ses enfants l'appartiennent. Si j'ai un mouton et il m'aime pas, les petits aïeux qui sont là appartiennent au mouton, mais m'appartiennent. Si je veux tendre un mouton, je veux lui couper l'oreille, je veux le castrer, est-ce que je tiens compte de son humeur, de ses projets? Il m'appartient, je suis son seigneur. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle Seigneur? Le Seigneur, c'est que tu n'es même pas son collaborateur pour avoir des droits, des heures de travail, des libertés, des temps de repos. Tu lui appartiens comme mon chien m'appartient, comme mon mouton m'appartient. Il fait de toi ce qu'il veut. Tu es sa propriété, tu es sa chose. Le mot droit de l'homme ne veut rien dire dans la Bible. Il n'y a pas de droit pour un esclave. La notion de Seigneur, quand tu dis Jésus est mon Seigneur, tu dis je suis ton esclave. C'est pour ça que naître de nouveau, c'est dit Jésus, je me vends à toi. Comme ton esclave. Est-ce que je peux demander quelque chose à mon esclave? Il va dire qu'il est un peu fatigué, qu'il veut manger d'abord, qu'on va en parler tout à l'heure. Si je dis à mon esclave de se laver, il va me dire qu'il s'est déjà lavé. Mais quand vous dites en tant que chrétien que Jésus est votre Seigneur, vous êtes son esclave. Vous passez votre temps à parler à Jésus comme s'il était votre serviteur. Je veux ci, il me faut ça, donne-moi ci, et puis je souhaite ci, j'ai tel projet. Vous imaginez un esclave parler à son maître comme toi, tu parles à Dieu?
Aïe, amen. Loi de Dieu, voyez quand nous mon Jésus ton. Le roi là, il nous dit, oh, il y a une petite minute.
Bon, quand je serai à la retraite, je vais évangéliser. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas trop envie d'évangéliser. Tu peux dire ça à ton maître?
Oui, ouais, doué, abi, ouais, doué. Le bon me partie nous à force tout et boire quand nous mourons. Mais là nous allons les venir de la mon agro mal allons les boire les mille mille couvres.
Le problème des chrétiens celui-ci, écoutez-moi bien.
D'accord, mais mes chrétiens ont les tenir.
Le mécanisme par lequel Jésus nous sauvait le suivant. Depuis Adam et Ève, Adam a vendu l'esprit de l'homme à Satan. Et nous étions donc les esclaves de Satan. C'est comme si Satan a pris les âmes et les esprits des hommes, il les met sur un bateau. Comme Dieu a maudit le règne de Satan, on sait que le bateau c'est un grand Titanic, mais il est en train de couler. D'ici quelques années, il va être complètement sous l'eau, tout le monde sera mort. Donc Satan fait que tous ceux qui sont avec lui là, dans tous les cas c'est pour mourir. Donc il dit bon, casse la tienne, comme nous allons tous mourir. Vous voulez baiser, baiser, vous voulez boire, buvez, vous voulez vous gifler, gifler, vous voulez danser nuit jaune. Mangez tout ce qu'il y a dans le bateau, c'est pas grave. Dans tous les cas, on n'a pas besoin de réserve, nous allons tous mourir bientôt.
Vous
voyez que quand on est avec Satan, on a un genre de liberté de faire n'importe quoi. Mais parce que c'est que dans tous les cas,
on dit que...
Quand on veut tuer quelqu'un, on lui demande quelle est sa dernière volonté. Parce que cette volonté ne change plus de rien à son sort. Donc, Satan te demande tous les jours quelle est ta dernière volonté. Fais ta volonté seulement, dans tous les cas, on va mourir. Donc, tu as l'impression que tu es libre. Alors que tu es sur un bateau qui va au fond de la mer, Satan fait que jour avant qu'on ne meure. Jésus voit ça. Jésus voit ça, il a pitié de toi. Il dit Satan, voilà ce qui va se passer. Ces gars que tu as comme prisonniers là, je sais que tu les as payés parce qu'ils ont péché. Par leur péché, ils sont devenus ta propriété. Moi, c'est des esclaves. Dis-moi ton prix, je vais les acheter. Parce qu'un esclave, c'est une chose. N'importe qui peut l'acheter. Fixe ton prix, je vais t'acheter ça. Satan a fixé son prix. C'était le sang de Jésus. C'était que Jésus ait la croix. C'était que Jésus soit humilié. Jésus dit, c'est pas compliqué. Je paye. Il va à la croix. Il délivre son sang. Maintenant qu'il a payé. J'ai payé. Hein. Dis maintenant aux prisonniers que j'ai payé pour eux. Que tous ceux qui veulent là, ils n'ont qu'à sortir de ton bateau et venir sur le mien. La seule manière de sortir de l'esclavage de Satan, c'est de rentrer dans l'esclavage de Jésus. Donc, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui disent, moi, on fait tellement la belle vie, le bordel ici, que moi, je préfère être esclave de Satan. C'est beau, c'est le monde, on fait la vie, on va dans les boîtes de nuit. Il faut nous laisser ici, on est en train de fêter.
Bordel,
on ne peut pas les forcer, non, quand c'est
là. Donc, tu as pas de la tibé, tu as dit,
Il y a maintenant ceux qui disent, moi je quitte l'esclavage de Satan, je veux suivre Jésus. Mais ils arrivent sur le bateau de Jésus, ils disent que ils sont venus ici un homme libre. Hein. Ils ne veulent pas être encore l'esclavage de Jésus, ils ont été libérés, c'est pour être libre. Mais la personne t'a payé. Tu dis que tu es venu un homme libre. Quelle liberté! Tu as payé pour quitter là-bas toi-même.
Bon, non, ouais, d'un gelé. Mais à part quoi, les gens qui ont dit un gossip d'un boy, ou à Jésus, quand ils ont dit, nous, quand on voit nos filles, tout quand nous, mais tout quand nous, town, à tout le monde.
Mais vous êtes libre sans être libre de Jésus. Les chrétiens font trop les malins sur leur liberté. Dieu me disait ce matin, je n'avais jamais réalisé, mais quand vous lisez la parole de Dieu, je ne vous donne pas des conseils, je vous donne des ordres. Baptisez-les, enseignez-les. Allez annoncer la bonne nouvelle. C'est des ordres. Pourquoi vous faites comme si je demandais votre avis? Vous m'appartenez, je vous donne des ordres. Et vous faites comme si je vous ai donné un avis. C'est un ordre quand on est esclave de quelqu'un. Donc, quand Jésus te parle, il ne demande pas ton avis, il ne demande pas tes conseils, il te donne l'ordre. Mais quand tu deviens l'esclave de Jésus, parce que Jésus est un très bon maître, ta vie va changer, va devenir douce, il va te sauver. Mais si après avoir quitté chez Satan, tu dis, je suis ici, mais je ne suis pas ton esclave, hein, il ne faut pas me donner d'ordre, moi je fais comme je veux. Tu vas souffrir parce qu'il va te dire reste dans la mer, moi je parle avec ceux qui sont
avec
moi. Et c'est ça beaucoup d'appelés qui ne sont jamais élus parce que Dieu les appelle du bateau de Satan, mais ils n'acceptent jamais de rentrer dans le bateau de Jésus parce qu'ils veulent être libres. Il n'y a pas de liberté spirituellement. Pour que Jésus puisse vous sauver, il faut qu'il soit votre Seigneur, c'est-à-dire que vous soyez fait esclave. Si tu refuses d'être un esclave, c'est-à-dire si tu ne te comportes pas comme un esclave, il ne peut pas te sauver. Lisons Matthieu 11, à partir du verset 28. Matthieu 11, verset 28. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes. Et qui êtes fatigués. Et moi, je vous donnerai du repos.
Ouais,
il y a une invitation. Venez auprès de moi. Vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. C'est lui qui vous donne du repos.
Ce
n'est pas vous qui vous saisissez du repos. Ce n'est pas vous qui créez le repos. Tes prières ne fabriquent pas la bénédiction. C'est Dieu qui te donne la bénédiction. Quand tu viens à lui. Verset 29. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. C'est-à-dire que l'invitation de Jésus de venir pour être délivré ne peut pas être séparé de son invitation à devenir son esclave. C'est en acceptant d'être l'esclave de Jésus, en acceptant les charges qu'il t'impose, en acceptant de lui obéir, de se comporter comme un esclave, dans une version dit en acceptant ses instructions, que tu peux être sauvé. Que tu refuses d'être son esclave. Que tu refuses ses instructions. Tu ne peux pas être sauvé. Parce qu'il ne peut sauver que ceux dont il est le Seigneur. Si beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis, c'est parce qu'ils viennent à l'église mais qu'ils n'ont jamais accepté de devenir les esclaves de Jésus. Tu peux même pas leur demander de s'asseoir quelque part, ils vont obéir. Un esclave auquel tu dis viens de Dieu, dit bon, le culte est trop long, 3 heures de temps c'est trop long, là-bas on fait des cultes de 55 minutes. Je dis à mon esclave, viens passer du temps avec moi, je vais te donner une partie de ma richesse. Et mon esclave me dit que non, il est en train de s'occuper de ses affaires. Mais quelle affaire mon esclave a qui ne me concerne pas? Mais est-ce que vous réalisez à quel point nous sommes stupides avec Dieu? Nous nous comportons comme des hommes libres alors qu'il a payé par son sang pour nous acheter. Et c'est pour ça qu'on ne rentre jamais dans la bénédiction, parce que la bénédiction est prévue pour ses esclaves. Alors dans Luc 6 au verset 46, Jésus dit ceci: vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Pourquoi donc? Celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et m'obéit, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui construit une maison. Il a creusé la terre et il a creusé profondément. Il a posé les fondations sur de la pierre. Au moment de l'inondation, les eaux de la rivière se jettent sur cette maison. Mais elles ne peuvent pas la faire bouger. En effet, la maison est bien construite. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, voici à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui a construit une maison sur le sol sans faire de fondation. Quand les eaux de la rivière se jettent sur elle, la maison tombe tout de suite. Elle est complètement détruite. Voilà votre problème. Vous n'adorez pas Dieu. Adorer Dieu, c'est le summum de l'obéissance, de l'abandon, de la soumission. On dit adorer, on l'adore, alléluia. Quand les chrétiens font quoi, dit alléluia, ça me fait alléluia, alléluia. C'est devenu un bavardage, un verbe creux. Alléluia, ça se dit, mais comme Dieu est grand, comme il est glorieux, c'est une exclamation qui va venir du plus profond de vous. Le gars dont on parle, il te dit d'aller dans la maison à côté, dit aux gens qu'il existe. Tu ne lui obéis même pas, tu viens dire qu'il est alléluia. Pourquoi tu veux mentir? Il faut arrêter de mentir.
Alléluia, n'a de dire le vrai gloire d'aller nous les personnes, mon Dieu. Et de me la patte, tu es fini. Et comme on boule, le quitte, fais vos tons et d'appeoni. Bah, mais où l'on l'a oublié? Adam, il coupe un béton. Le bocal, alléluia.
Il ne peut rien te dire, tu vas faire la chose. Et le problème des chrétiens, c'est que vous philosophez la foi comme si le chrétien doit regarder la Bible et il fait ce qu'il veut. Mais ça, ce n'est pas le comportement d'un esclave. Non, si tu te comportes comme un propriétaire, il t'abandonne, fais ce que tu peux. C'est pour ça que vos vies ne bougent pas. Écoutez, vous réfléchissez déjà trop. Dieu m'a dit cette semaine, dis-le. Ils réfléchissent trop. On dit que Dieu est l'éternel, le Dieu des armées. C'est-à-dire, c'est le Dieu des armées. Le général n'est que le patron des armées. Lui, il est le Dieu des armées. Dans toute armée, il y a une règle de base. On appelle ça exécution avant réclamation. Tu peux trouver d'autres voies de recours après. Mais si ton chef dans l'armée dit tue-moi celui-là, Au mieux, tu dis, est-ce que l'instruction est confirmée? S'il dit exécution, tu ne peux même pas demander pourquoi il a voulu le tuer. Tu l'as pas d'abord. Et on ne peut pas te poursuivre parce que tu as exécuté un ordre militaire, ça ne se discute pas.
Et
c'est pour ça que même dans les procès où il y a les génocides et qu'on sort, si un soldat arrive à démontrer qu'il a agi par ordre, qu'il n'a fait qu'obéir sans aucun zèle, on ne peut même pas le poursuivre parce que pour un militaire, c'est la base. Obligation d'exécuter sans réfléchir, sans discuter. Toi, tu es un soldat de l'Éternel. Il t'a donné bouclier. Il t'a donné armure. Il t'a donné casque du salut. Il t'a donné épée. Il t'a équipé de tout ce qu'il faut. Tu as les anges qui sont là comme des bombardiers à t'accompagner. Et tu es le genre de soldat, le Dieu de toutes les armées, il parle. Et tu commences à discuter avec lui, à raisonner. Oui, moi je pense que, après tout, pourquoi c'est important? Il me semble que. Tu vois pas que c'est de la foutaise? Essayez de voir déjà un domestique simplement comment il se comporte en obéissant à son patron. À plus forte raison, un esclave. Et esclave de Dieu. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui t'a inspiré. Tu es entièrement dans sa main comme un jouet. Et tu fais de la philosophie quand il a parlé. Tu vois si tu es d'accord. Bon, est-ce que le baptême est important? Bon, si je ne loue pas Dieu, est-ce que bon, Dieu dit d'être en joie, moi je ne suis pas en joie, c'est fini, non?
Bon,
l'évangélisation là, c'est trop compliqué, les gens nous insultent, moi ça ne me plaît pas. Dieu dit de pardonner, mais moi je ne lui pardonnerai jamais. En tout cas, même si Dieu descend, moi je ne lui pardonnerai pas. Mais imagine un esclave en train de dire ça à son Seigneur. C'est que si ce n'est pas que Dieu, en plus d'être notre Seigneur, était un père d'amour, mais ce serait terrible. C'est son côté père qui fait qu'il ne nous détruit pas immédiatement et qui, comme il dit, il use de patience afin que nous parvenions à la repentance. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. L'esclave de Jésus, il dit, s'ils ont crucifié le maître, s'ils ont persécuté le maître, que seront-ils à ses disciples? Là où Jésus est passé, toi tu ne veux pas passer? C'est-à-dire, les chrétiens font comme s'ils avaient le choix là où ils n'ont pas de choix. Votre vie chrétienne va mûrir et va commencer à porter d'abondants fruits quand vous commencerez à réaliser ce que ça veut dire que d'appeler Jésus Seigneur.
Et
si tu crois du cœur et si tu confesses de la bouche qu'il est Seigneur, il sera ton sauveur. Est-ce que tu crois du cœur qu'il est ton Seigneur? Et si tu dis que tu es trop fatigué pour aller le voir aujourd'hui, tu crois vraiment du cœur que lui il est ton Seigneur? Et il dit de sauver le voisin qui doit mourir, tu es trop fatigué pour le faire. Il t'appelle. Est-ce que tu dis oui Seigneur? Quand tu dis oui Seigneur, ça dit fais-moi ce que tu veux. Ton esclave est là. Est-ce que toi tu te sens vraiment comme un esclave de Jésus? Vous vous comportez comme si vous étiez des clients de Jésus. Et que vous avez payé la bénédiction, vous attendez maintenant qu'il vous la livre. Jésus ne sauve pas des clients, il sauve ses esclaves.
Jésus, et non, vous l'avez ici, nous sommes les gars.
C'est ça que vous devez comprendre. Si tu n'es pas esclave de Jésus, tu ne peux pas être béni par Jésus. Et je terminerai en vous lisant ceci. Jean 17. À partir du verset 6. Jésus qui parle, l'une de ses dernières paroles au Seigneur, son Père. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu les as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Et ils ont obéi à ta parole. C'est après avoir posé toutes ces conditions-là. Vous voyez, il vient de décrire les gens en question. Je vous le lis. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Est-ce que tu connais le nom de Dieu? On vient de dire, est-ce que tu sais qu'il est Seigneur? Tu les as pris dans le monde pour me les donner. Est-ce que tu as quitté le bateau du monde? Ou bien tu es toujours dans les bars climatisés le week-end? Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Et ils ont obéi à ta parole. Maintenant, tout ce que tu m'as donné, ils savent que cela vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Quand tu reçois les paroles de Jésus, tu reçois les paroles de Dieu. Ils les ont reçues. Ils savent vraiment que je suis venu de toi. Et ils croient que tu m'as envoyé. Moi, c'est Jésus qui parle, hein? Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Mais je prie pour ce que tu m'as donné. C'est Jésus qui parle, hein? Moi, Jésus, je prie pour eux. Eux là, c'est qui? Ceux qui obéissent à sa parole, ceux qui sont sortis du monde, ceux qui croient qu'il les a envoyés, que c'est Dieu qui l'a envoyé, ceux qui savent qu'il est Seigneur. Lui, Jésus là, assis auprès du Père là, en train d'intercéder là, il ne prie pas pour tout le monde, hein? Beaucoup d'appels un peu d'élus. Il a dit, des gens prophétiseront, je leur dirai, je ne vous connais pas. Je ne sais pas si Jésus prie pour toi, hein? Mais ici, il dit pour qui il prie. Il dit, moi, je prie pour eux. Et donc, je viens de te parler là. Si tu n'es pas dedans, si tu n'es pas dans ces esclaves, tu serais bien de courir de rentrer dedans. Sinon, il dit ici, verset 9, dans Jean 17, il faut aller vers la maison. Moi, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. Mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Si je suis un Seigneur et on me donne des esclaves, c'est les esclaves qu'on m'a donné qui sont vraiment pour moi. C'est pour eux que je prie. Si quelqu'un n'est pas pour moi, pourquoi je vais prier pour lui? Tu as pris Jésus? Et il dit de rentrer dans l'eau et de sortir. On ne te demande pas d'argent, on ne te demande pas de sécher tes habits, tu ne veux pas rentrer dedans. Tu es pour Jésus. Et dis, ouvre ta bouche. Dis, je suis béni. Toi, tu dis, non, j'ai ouvert ma bouche pour dire que je suis fatigué, pour dire que je suis pauvre, pour dire que je suis malade. Et toi, tu es pour lui. Et ton maître a dit de dire que tu es heureux. Et toi, tu as choisi de dire que tu es malheureux. Ou bien, en tout cas, moi, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Mais je prie pour ceux que tu m'as donné. Oui, ils sont à toi. Allez, il dit oui. Ceux qui sont vraiment à toi là. Ceux qui sont vraiment tes esclaves là. C'est pour eux que je prie. Est-ce que vous voyez à quel point il est précis? Je ne prie pas pour eux. Je prie pour ceux qui sont à moi. Ceux qui sont vraiment à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. De même, tout ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire apparaît en eux. La gloire de Dieu n'apparaît pas dans ceux qui viennent à l'église. Elle apparaît dans ceux qui sont vraiment à Dieu. Ceux qui sont entièrement à lui. Ceux qui sont ses esclaves. Ceux qui disent en esprit, en vérité, Seigneur. Ceux qui disent je t'adore. C'est fait de moi ce que tu veux. Il faut donc méditer cela. C'est la semaine de Pâques. C'est le moment où tu peux mettre au tombeau tout ce qui est en toi appartenait à quoi? À autre chose qu'à Jésus. Et tu peux vraiment naître de nouveau. Ce n'est jamais trop tard pour naître de nouveau. Hein. Mais pour naître de nouveau, il faut être mort du côté de Satan. Et naître maintenant comme esclave de Jésus. D'ailleurs, en Argentine, certains pour baptiser disent, je te tue dans le royaume de Satan et je te fais naître dans le royaume de Jésus.
Donc
tu étais esclave de Satan. Jusqu'au jour où tu deviendras esclave de Jésus. Mais il n'y a personne au milieu des deux. Les gens qui croient qu'ils sont libres sont en fait des esclaves de Satan. Qui ne savent pas qu'ils sont toujours esclaves de Satan. Donc si tu en es encore, quand tu lis la parole, à voir ce que tu as envie de faire, selon ton humeur, il faut te repentir. Il faut enterrer ça cette semaine dans le tombeau. Et que Pâques fasse naître en toi un homme nouveau. Un vrai esclave de Jésus. Quelqu'un qui peut dire Seigneur et ce sera Seigneur en esprit et en vérité. Parce que pour que Jésus soit ton sauveur en esprit et en vérité, il faut que tu sois son esclave en esprit et en vérité. Que Dieu t'aide. Amen.
Vous venez de suivre Lève-toi et prie, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, 6 à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'Amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny. Diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229-61-44-44-44.
Le roi de tous les rois, le Seigneur des Seigneurs, c'est le Dieu qui guérit, le premier.
Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h. Nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu, la meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée, ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Dieu vous bénisse.